Roberto, la va a poner Roberto, la pone Roberto, ya está Zinedine, Zinedine en gatilla, chuta.
Quel plaisir de vous retrouver pour Esprit Madridista après la trêve internationale et après justement donc une journée de Liga qui s'est achevée avec la victoire du Real Madrid contre l'Athletic Bilbao à domicile 2-0 grâce à un doublé de Rodrigo. Plaisir de se retrouver, on va dire un petit peu avant la prochaine échéance et le prochain match qui va mettre aux prises le Real Madrid et Manchester City pour les quarts de finale de Ligue des Champions. On va essayer de parler de tout ça avec la dynamique, les différentes blessures qu'il y a pu avoir durant cette trêve, du match surtout, et de tout ce qui va augurer donc ces 9 jours qui nous séparent du match aller contre City avec Pablo du Journal du Real et avec Hichem de Real French Madrid. Messieurs, salut.
Salut tout le monde.
Comment ça va, messieurs?
Bah écoutez, ça va, hein. 2-0 contre une équipe compliquée. Ça peut caler bien, en vrai.
Je m'étonne. Non, c'est intéressant donc de voir, on va dire, qu'il y a une dynamique positive qui se poursuit après la belle victoire du côté de Osasuna avant la trêve. Et là, on voit un Real Madrid qui joue quand même contre une équipe qui va jouer la finale de la Coupe du Roi cette fin de semaine. Et voilà, jouer, aborder de la meilleure des façons ce match-là, ça donne 2-0 avec le retour. Enfin, j'ai envie de te dire, ça fait combien, je sais pas combien de temps là qu'on attendait ça. À peu près 4 mois, le retour de Rodrigo.
Ouais, match extrêmement bien géré de la part du Real Madrid. En plus, sans Vinicius Junior. Ouais, et ça a eu son importance dans le match. Je pense qu'on va en parler plus en détail tout à l'heure. Mmh. Voilà, retour de Jude Bellingham. Titularisation de Brahim, si je me trompe pas. Et avec une défense avec les joueurs disponibles qu'on a en défense, quoi. C'est-à-dire Nacho et Rudiger en défense centrale notamment. Moi j'ai bien aimé ce Real Madrid parce que Bilbao c'est jamais une équipe facile, comme je le disais. C'est une équipe qui a les qualités pour gêner un peu le Real Madrid. Et là le fait est qu'il y ait 2-0, donc clean sheet. Et globalement, qu'on ait eu un match plutôt bien maîtrisé de la part des joueurs du Real, avec beaucoup de verticalité, j'ai trouvé, dans le jeu, notamment les phases offensives. Ça rassure énormément quand on sait que la prochaine échéance qu'on a, ça sera une équipe, l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc voilà, tu gagnes en Liga, tu te rassures avant un match très important qui arrivera la semaine prochaine. Et quoi te dire de plus, on est satisfait, hein. On peut être que satisfait de cette rencontre.
Ah, j'allais dire oui, comptablement parlant, ça maintient toujours un écart avec Barcelone. C'est vrai qu'il y avait, on va dire, quelques petites craintes craintes, c'est un grand mot. Puisque le Barça justement qui est notre maintenant dauphin avait remporté son match et était revenu à 5 points. Là on a vu que le Real Madrid a fait preuve, on va dire, d'autorité, un but par mi-temps. Pablo, en plus avec Rodrigo, c'est vrai qu'on en parle assez souvent. Je sais pas pourquoi on veut mettre en parallèle Rodrigo avec peut-être de futures arrivées. Mais c'est vrai qu'on a vu un Rodrigo qui était enfin concerné par rapport à la situation, qui devenait un petit peu préoccupante offensivement parlant. Et il montre qu'on peut lui faire confiance quand, des titulaires importants ne sont pas là.
Ouais, moi j'ai surtout, pour venir sur le match, j'ai surtout remarqué deux équipes qui étaient quand même sur la retenue, selon moi. Côté Real, parce que bah, t'as un gros match qui arrive en Ligue des Champions, et côté Athletic Club, parce que t'as cette finale de Coupe du Roi samedi.
Contre Mallorca.
Contre Mallorca, qu'ils veulent absolument gagner, parce que ça, je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné de titre, mais voilà, c'est un moment historique pour eux. D'ailleurs, si je me trompe pas, quand tu regardes un peu la compo de l'Athletic, je crois que Valverde avait décidé de faire tourner. Donc, voilà, comme quoi cette saison, le Real Madrid a joué deux fois l'Athletic Club à des moments opportuns en début de saison quand l'équipe n'était pas encore bien rodée, et là, en plein mois de fin mars, début avril, quand l'Athletic doit jouer une finale de Coupe du Roi la semaine prochaine.
Ouais.
Et donc, ça, c'est 6 points de prix face à une équipe compliquée, parce que c'est toujours compliqué de jouer l'Athletic en Liga, comme l'a dit Hichem. Et concernant Rodrigo, ce que j'ai à dire, c'est que à partir du moment où il joue à son poste, en fait, il est efficace. Il est efficace, il fait ce qu'il sait faire. Il prend l'équipe sur son dos, il marque 2 buts importants. Alors est-ce que cette trêve internationale et le fait de partir avec le Brésil quelques jours, ça lui a pas fait du bien aussi? Sûrement, parce qu'il a dû changer les idées.
Ouais, mais il a marqué aussi contre l'Espagne.
Et il a marqué effectivement contre l'Espagne. Donc voilà. Rodrigo est un joueur de côté gauche. Je le répète souvent dans ce podcast. Il joue pas à son poste, que ce soit à droite ou dans l'axe. Et là, avant-hier, du coup, parce qu'on est mardi déjà, il a encore prouvé, et ses deux buts sont tout simplement magnifiques. Sa première frappe, là, la 6e minute, elle est pure, elle est parfaite, et son action dans le petit espace, pour le deuxième but, pareil, c'est dignement joué, et ça ne fait que confirmer que c'est un grand joueur. Maintenant, je pense que c'est un grand joueur qui est mal utilisé.
Mais disons que en fait, on a l'impression d'avoir les mêmes discussions saison après saison. Quand on se remémore, on va dire, ce qui se passait en 2021, 2022, 2022, 2023 et même sur cette saison, on voit que, on va dire, les saisons de Rodrigo, elles sont un petit peu en dents de scie. On voit que on voit la qualité et tout le talent qu'est ce joueur. Sur certaines séquences, mais c'est vrai qu'à des moments, il y a des moments où il y a de la disette, du doute, et même de la remise en cause d'un certain schéma de jeu, d'un certain système dans lequel il n'est pas à l'aise quand il ne marque pas de but. Je sais que Hichem, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, justement, donc ce sujet Rodrigo. mais surtout, voilà, on a l'impression qu'on est toujours sur, quand ça va. Ça va. On va pas dire oui, ça va pas, etc. Et on remercie, tout ce qui est fait dans la préparation physique, que ce soit peut-être au niveau de certaines indications qui sont données, les dents, ce genre de choses-là. Et quand ça va pas, on dit, vous savez, il joue pas forcément à son poste, donc il est pas à l'aise, que ce soit à droite, que ce soit dans l'axe. On est bien d'accord, comme tu disais, Pablo.
Ouais.
Mais, disons que, c'est fait toujours avec une certaine irrégularité, si je dois dire ça comme en termes de forme.
C'est une irrégularité quand il s'agit de marquer des buts. Après, moi, je trouve, par exemple, sur les derniers matchs, que dans le contenu, dans le jeu, Rodrigo avait su créer beaucoup de choses sur le terrain. Et en fait, on le sentait pas, tu vois, complètement à la ramasse comme certains joueurs quand ils sont... effectivement dans un coup de mou. Moi je trouve, c'est qu'une impression, que dans le jeu quand même Rodrigo fournissait des choses. Après, il n'avait pas la réussite derrière face au but, mais en soi, moi, dans cette période de disette, oui, il a eu une période de disette, dernièrement, en tout cas, j'ai trouvé que dans le jeu, ça allait beaucoup mieux, et on l'avait vu avec le Brésil. Et là, on le voit aujourd'hui avec son dernier match contre Bilbao. Moi, les performances de Rodrigo, elle me m'inquiète pas plus que ça, tu vois. Enfin, il y a eu d'autres grands joueurs du Real Madrid qui ont connu des périodes bien pires, et que ça soit dans le jeu ou face au but. Mais comme je pense un très grand joueur. Comment?
Comme Antonio Cassano.
Karim. Cassano. Ouais, je sais pas, mais
bah après la dynamique de Cassano, elle était pas la même.
À Karim Benzema. Pour le coup.
Tu parles de quel
Karim Benzema qui en plus de ça avait une concurrence avec des grands attaquants, hein, globalement, Gonzalo Higuain. Là, je pense à sa rivalité sous l'ère Mourinho, notamment. Mais ensuite, Karim a toujours su confirmer auprès des entraîneurs. Et aujourd'hui, on voit Carlo Ancelotti qui lui fait confiance. Donc, j'ai envie de lui dire, venez, on lui fait confiance. On lui fait confiance et on voit ce que ça donne. Et effectivement, comme je le disais en message privé entre nous, oui, si ça se répète de façon constante et à des moments clés de la saison, là, ouais, effectivement, faut penser à gérer le carreau de Rio autrement. Mais il est jeune, faut le laisser respirer, lui donner de la confiance, je pense.
Ben, justement, parce que lui donner de la confiance, comme disait Pablo, c'est le mettre dans les meilleures dispositions de le faire jouer sur le côté gauche. Mais on voit, par exemple, sur cette saison ou même auparavant, que la place est prise, hein, côté gauche en tant que titulaire avec Vinicius. Et justement, on est dans quoi? On est dans faire un choix entre l'un ou l'autre, faire jouer l'un et l'autre, sachant qu'ils ont le même côté préférentiel. Comment justement donc on arrive à tirer la quintessence de l'un et de l'autre en même temps, parce qu'on a l'impression que c'est soit l'un ou soit l'autre qui est bon dans ces dispositions?
C'est une équation qui est difficile, effectivement.
Ah, c'est compliqué.
Ouais.
Vas-y, Michel.
Non, vas-y, j'allais te laisser parler. De toute façon, j'allais simplement dire que c'est un casse-tête pour Carlo Ancelotti. Après, c'est le Real Madrid et c'est le football. Il faut faire des choix et il faut qu'il soit judicieux et que ça aide l'équipe, quoi. Voilà.
Après, quoi qu'il arrive, en fait, le choix, pourquoi au final on choisit tout le temps, enfin, les différents coachs ont toujours choisi Rodrigo quand Vinicius était là à droite et Vinicius côté gauche. Parce que tout simplement, Vinicius, lui, pour le coup, ne peut vraiment pas jouer à droite ni dans l'axe.
Ouais.
Mm-hmm. En fait, c'est plus ça le problème.
Effectivement.
Et ça sera pareil avec Mbappé, en fait, si Mbappé vient. Mbappé peut jouer à gauche, mais Mbappé peut jouer dans l'axe. Vinicius peut jouer à gauche, mais ne peut pas jouer dans l'axe ni à droite. Donc en fait, si tu veux utiliser tous tes garçons au mieux, bah faut que tu les places là où ils sont bons. Et vu que Vinicius n'est que bon à gauche, bah t'es obligé de laisser Vinicius côté gauche. Il est là le vrai problème. Enfin, c'est pas un problème au final, parce que Vinicius il est très très bon à gauche. Mais...
Ah, clairement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Rodrigo est victime de sa supposée polyvalence.
Exactement.
Et
exactement, parce qu'il sait s'adapter à droite, et qu'à droite, comme l'a dit Hicham, bah, malgré tout, il fait quand même du bon boulot, même s'il ne marque pas des buts, parce que Hicham parlait de création offensive, mais moi je peux parler aussi d'effort défensif. Rodrigo, c'est un joueur qui travaille énormément sur les phases défensives, qui redescend, qui vient aider son latéral, qui vient aider son milieu de terrain droit, qui est Valverde. Souvent, tu le vois redescendre et voilà, essayer de récupérer des ballons bas, contrairement au joueur qui est de l'autre côté, Vinicius.
Ah non, clairement.
Qui lui, pour le coup, ne fait pas spécialement les efforts défensifs.
J'allais dire que par rapport à ça, quand on reprend les propos d'après-match de Carlo Ancelotti, hein, que je reprends à partir du journal du Real, hein, bien évidemment, excellent site. De ce côté-là, ben, justement, Carlo Ancelotti dit que voilà, Rodrigo a très bien joué, il nous a donné l'avantage en début de match à réaliser des actions de grande qualité. C'est ce que Rodrigo fait et ce qu'il doit faire. Pour moi, il est bon partout. Même si les gens disent qu'il joue mieux à gauche, il ne faut pas oublier qu'il a marqué 2 buts en jouant à droite en demi-finale de Ligue des Champions. Et en plus, quand on se souvient contre qui on a joué la demi-finale, ça a peut-être son importance. Mais voilà. Et dit que c'est un grand attaquant qui manque parfois de la cible, mais c'est normal.
J'avais pas entendu cette déclaration. Du coup, il a dit que parce qu'une fois il a marqué un doublé à droite.
Non, il a dit qu'il faut pas oublier qu'il a marqué 2 buts en jouant à droite en demi-finale de Ligue des Champions, mais qu'il est bon partout, selon Carlo Ancelotti.
Ouais, ok.
Ah, mais En gros,
ça me gêne cette réflexion-là.
Ah, mais moi, je te dis, moi, je pense qu'il nous prépare à ce que ben, qu'il reprenne, on va dire, sa place habituelle quand Vinicius reviendra de suspension.
Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. Ça, c'est plutôt clair. Ah, moi, je pense pas qu'il va faire ça.
Tu dis Pablo?
Non,
je suis d'accord avec vous. C'est certain que Vinicius va jouer à gauche.
Mm-hmm. Ah.
Et que Rodrigo se trouve à droite, c'est Carvenas.
Oui. Et qu'il sera, et que voilà, que en fait, qu'il attend qu'il soit bon et que voilà, il essaye de vraiment de le mettre en confiance par rapport à ça. Mais et justement, il disait aussi Carlo Ancelotti, c'est que voilà, il joue avec beaucoup d'intensité et parce qu'il est jeune, je lui demande de faire du travail défensif. Cela signifie qu'il n'est pas aussi frais devant le but qu'il l'était aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que sous-entendu que il est sur le côté, il fait les efforts. Tu le disais Pablo également. Et donc du coup après derrière pour pouvoir finir et être dans des zones de vérité. On fait plus confiance à des joueurs qui sont plus frais, peut-être parce qu'ils font moins d'efforts, même si c'est pas forcément le cas. Par exemple, comme Jude Bellingham qui fait beaucoup d'efforts, qui marque des buts, Vinicius également. Et non, je pense qu'il y a un truc à voir et je pense que ça va être dans cette façon-là. Je pense que Rodrigo, beaucoup disaient qu'il était Monsieur Champions League pendant longtemps et je pense qu'on a besoin de lui à ce niveau puisqu'il a toujours été décisif dans des rencontres de Ligue des Champions. Donc, que ce soit à gauche, que ce soit dans l'axe, que ce soit à droite, il faut qu'il soit présent. Et je pense qu'il reste toujours la meilleure option pour pouvoir jouer contre City. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Pour moi, il doit absolument jouer face à Manchester City. Ouais. Il est beaucoup trop important. Même si toutes ses qualités ne sont pas au mieux exploité à droite, il reste malgré tout très important offensivement et il t'apporte toujours du déséquilibre et face à une équipe comme City qui joue haut en transition, Rodrigo ça peut être mortel sur le côté droit. Enfin, on l'a déjà vu en Ligue des Champions, il l'a déjà fait et il peut le refaire.
Ah non, c'est clair, on sera attentif à cela.
Moi je le sens bien contre City.
Ouais, moi aussi je le sens bien.
Ah, bah,
une équipe qu'il affectionne, enfin contre qui, bon, il a déjà marqué des buts importants, mais on le sent, je sais pas, il y a des fois des choses inexplicables comme ça où t'as des joueurs contre certaines équipes, ils sont là, ils débloquent des situations et à chaque fois ils arrivent à faire une différence. Et là, Rodrigo contre City, j'espère en tout cas, mais je le sens bien contre cette équipe.
Ah ben, j'allais dire qu'en plus on récupère donc de plus en plus de joueurs. On a eu un moment très important quand même dans notre fin de saison qui va être très bien. C'est le retour d'Eder Militao qui a été salué par le Bernabeu, même si c'était pour quelques minutes. Il sera certainement trop juste pour pouvoir jouer contre City titulaire. Mais voilà, c'est une bonne chose de le récupérer, de voir qu'il y a des joueurs qui sont maintenant sur pied, hein, même si voilà Courtois a rechuté et à notre grand désespoir, il y a Lunin qui tient la baraque, mais le fait de voir qu'il y a Militao qui devient une option supplémentaire, ça pose aussi la question de la défense centrale.
Après, il sera pas, je pense pas qu'il sera disponible à 100%.
Non, moi je pense qu'il jouera pas. Hein. L'idée c'est qu'il joue pas sur les deux confrontations.
Il jouera pas.
Mais par contre, la question de savoir qui va jouer, ça c'est là, par exemple, on a eu.
Ça, il y a une vraie question.
Il y a eu Tchouaméni également, donc la question c'est de savoir qui va accompagner Rudiger. Si tout le monde est en bonne santé pour cette rencontre, et quelle serait la meilleure option disponible selon vous?
Là déjà avec le dernier match qu'on vient de voir, quand tu vois que Carlo Ancelotti aligne Antonio Rudiger et Nacho Fernandez en défense centrale, pour moi c'est un signe que ça sera cette charnière centrale qui jouera contre City, et ça me plaît pas plus que ça, notamment parce que Nacho, oui, on l'apprécie pour son dévouement pour le Real Madrid, mais en ce moment, c'est vraiment pas ça cette saison. Et d'ailleurs, à la fin de la saison, il faudra qu'on ouvre le dossier Nacho, je pense. et en tout cas, il est pas dans. Je lui fais pas confiance, en tout cas contre City. J'aurais préféré voir un Aurélien Tchouaméni en défense centrale. Est-ce que c'est un coup de bluff de la part de Carlo Ancelotti pour pour aiguiller de la mauvaise manière Pep Guardiola et peut-être faire une surprise avec Tchouaméni dans l'axe. Je vois pas pourquoi on prendrait ce risque-là enfin, je vois pas pourquoi Carlo Ancelotti prendrait ce risque de feinter, en fait, Guardiola dans ce sens. Pour moi, il va mettre Nacho et Antonio Rüdiger et j'aime pas ça, quoi. Voilà.
Mais, moi, je suis pas si certain que ça, personnellement.
Vas-y, Pablo.
Je pense que là, il a surisé Nacho tout simplement parce que Camavinga était touché à la cheville et que si Camavinga avait été on dit, à 100% de condition, je pense qu'il l'aurait mis face à Bilbao et que du coup, moi je pense très très fortement que Ancelotti va décider de mettre la meilleure équipe possible face à City. À l'heure actuelle, la meilleure équipe possible face à City, c'est avec Tchouaméni dans l'axe en défense centrale. Nacho titulaire face à Bilbao, c'est juste que Camavinga n'était pas disponible qu'il a dû remplacer en fait Camavinga par Tchouaméni au milieu de terrain et que du coup il ne pouvait pas le mettre dans l'axe derrière. Moi c'est comme ça que je vois la chose plus.
Ouais, ben c'est vrai que en plus on a il y a 9 jours qui séparent le match de Bilbao du match contre City. 9 jours, c'est long, donc c'est-à-dire que là, il y a toute une dynamique qui peut se passer sur la semaine, les différents entraînements. Il y a Eduardo Camavinga qui s'est blessé en sélection contre le Chili.
Mais c'est pas grand-chose, hein.
Ouais, effectivement.
C'était un coup à la cheville, c'était pas grand-chose. Mais
oui, bien sûr.
Ancelotti n'a pas voulu prendre de risques, il l'a pas fait jouer, et c'est une très bonne nouvelle parce qu'ils ont gagné sans lui. Maintenant, avec un écart de... Parce que du coup, il y a plus de 14 jours où... entre le match contre le Chili et il y a 2 semaines, quoi, parce que
ça joue
mardi, donc 2 semaines de repos pour Camavinga pour être au top face à City, donc en principe il devrait être titulaire face à City et derrière t'es obligé de mettre Aurélien Tchouaméni, tu peux pas te passer d'Aurélien Tchouaméni pour ce match-là, je pense.
D'accord, donc là on a Hichem qui a lui sa sensation comme quoi ça va être Nacho Rüdiger en défense centrale, même si il pense que c'est Tchouaméni qui va être il faut mettre Tchouaméni. Et toi, Pablo, toi, tu penses que Tchouaméni va être titulaire à coup sûr puisque Camavinga n'était pas là.
Exactement. D'accord. Moi, je pense que l'équipe du Real, c'est celle qui a joué contre Osasuna avant la trêve. Mm-hmm. C'est-à-dire avec Tchouaméni dans l'axe. Le milieu à 4 qu'on connaît, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham. Enfin, du coup, c'était Brahim à la place de Bellingham parce que Bellingham était suspendu à cette époque-là.
Tout à fait.
Et Vinicius, Rodrigo.
Voilà. D'accord, donc c'est l'équipe de Sasuna à l'exception de Bellingham qui reviendrait dans le 11.
Pour moi, c'est ça.
Ah, disons que oui, ça ressemble.
Surtout, t'as besoin de taille contre City et que Tchouaméni est grand, tu vois. Il y a plein de détails comme ça qui me font croire qu'il va préférer Tchouaméni à Nacho et surtout que Nacho, comme l'a dit Hichem, Nacho cette saison c'est catastrophique, c'est pas sa meilleure saison.
Ah, c'est pas, oui, et c'est loin d'être sa meilleure saison.
Et que mettre Nacho contre cette équipe-là, même si c'est pas le meilleur Manchester City qu'on a pu voir, ce serait, je pense, une catastrophe de faire ça. Et un mauvais choix, je pense. Hein.
Ah, après, voilà, c'est là où on va dire que la question de ce qui va concerner la semaine entière qui va être consacrée à la préparation du match. Est-ce qu'elle ne permettrait pas de faire en sorte que les joueurs soient le plus frais possible et d'avoir une préparation spécifique, parce que cette semaine-là, c'est une semaine qui est quasiment inédite dans le football européen, d'avoir cette chance entre guillemets d'être frais. Donc surtout dans le sprint final, est-ce que par exemple un Nacho peut se remettre sur pied? Est-ce
en que 10 jours. En 10 jours, t'es optimiste.
En 10 jours, d'être vraiment focus sur un aspect physique et tactique, d'avoir de la préparation tactique pour pouvoir peut-être être prêt sur la rencontre, sur le match à l'issue. Comment on aborde le match?
Tu veux que je te dise vraiment ce que je pense de Nacho? Je pense qu'il est fini. Tout simplement.
À 31 ans?
C'est fort.
31 ans? Non, il a 34.
C'est à quelle année? C'est à 90?
189 même, je crois.
Ouais. Non, parce que non, je veux dire, non, il est pas si âgé que ça. Bien sûr, Fernandez Iglesias, c'est un 90, oui. Donc il a eu 34, effectivement.
C'est pas l'âge qui fait que quoi que ce soit, c'est juste que moi je trouve que il est fini. Il a donné ce qu'il avait à donner et.
Mais est-ce qu'il devait être dans la peau d'un titulaire? N'oublions pas qu'on a perdu David Alaba pour le reste de la saison. Que l'on a, mais voilà, donc qu'en fait en termes de munitions en défense centrale, Eder Militao a été longtemps blessé. Est-ce qu'il joue pas une saison dans laquelle où il était censé, on va dire, être quelqu'un qui dépanne, et là maintenant il a été plus exposé que d'habitude, et c'est ce qui fait qu'en fait on voit ce niveau-là en fait.
Mais en tout cas, moi ce que je note, c'est que quand Alaba et Militao n'ont pas été là. Et que Carlo Ancelotti avait le choix de mettre soit Nacho, soit Tchouaméni, il a toujours préféré mettre Tchouaméni. Voilà. Sauf là, avant-hier, parce que Camavinga n'était pas disponible. Mais quand il avait la possibilité de faire un choix clair et net en défense centrale entre Tchouaméni et Nacho, il a préféré Tchouaméni. Et c'est pas anodin. Donc, je pense pas que cette idée-là va changer le jour du match le plus important de la saison. Tu vois.
Ah oui, bien sûr.
Surtout que
le truc, c'est que vas-y, excuse-moi.
Non, vas-y, t'inquiète.
Termine, Pablo, vas-y. Nacho, il est capable de sortir des grands matchs en Ligue des Champions. Mais quand tu vois tout ce qu'il a fait jusqu'à présent en Liga, tu peux pas lui faire confiance et c'est trop risqué en fait de le titulariser dans une rencontre aussi importante contre l'une des meilleures équipes d'Europe.
Exactement.
Ça serait fou, à moins que Carlo se dise oui, bon ben, on va se baser sur les matchs excellents qu'il a fait par le passé, mais ça serait 1% de fois et 90% de.
ce serait de kamikaze, tout simplement, de faire ça.
Ouais, voilà.
Et surtout que tactiquement. Vas-y.
Ouais, non, mais vas-y, je t'en prie.
Tactiquement, Tchouaméni, il t'apporte des choses que ne t'apporte pas Nacho. Déjà, au niveau de la taille, comme je disais, il est beaucoup plus grand. Donc, face à Sisi, t'as besoin de défenseurs centraux grands, bons de la tête. Rudiger et Tchouaméni le sont, face à Haaland. T'as besoin de mecs qui sont sereins, que ce soit dans l'anticipation, donc défensivement, mais aussi à la relance. Nacho, il est tout sauf serein cette saison. Tout sauf serein. Tchouaméni t'apporte ça. Tchouaméni t'apporte de la sérénité au moment de récupérer des ballons. Il se jette pas. Très peu de fois, il s'est laissé avoir par son vis-à-vis quand il a joué défenseur central. Et en plus de ça, c'est un excellent relanceur. Et chose très importante face à une équipe qui joue aussi haut sur le terrain. Parce que si t'as des bons relanceurs de derrière, tu peux très vite casser des lignes à la passe et te retrouver dans des situations. Ouais. Dans de bonnes situations en transition avec des milieux de terrain explosifs et Vinicius Rodrigo
à la John Stones la saison passée, qui nous a piégé aussi dans son
genre, la verticalité quand tu regardes par exemple Arsenal City qui a eu ce week-end, les phases où City pouvait se faire avoir quasi tout le temps, c'est parce que justement, comme disait Pablo, en fait, il joue très haut. Le bloc est très haut. Ce qui laisse énormément d'espace derrière. Et en fait, la verticalité, ça sera la clé. Et on a les joueurs pour. Exactement. On a des Brahim Diaz, on a des Vinicius, on a des Rodrigo qui savent, et même Valverde, je l'inclus dedans, qui savent en fait jouer très, très vite vers l'avant et avec beaucoup de verticalité, comme je le disais. Et contre City, si on arrive à les avoir sur ça, on peut passer. Et après, exactement, sur attaque placée, c'est un peu plus compliqué. Ils sont quand même bien en place, Manchester City.
Ah, ben justement, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement du City Arsenal de ce dimanche où il y a eu match nul entre les deux équipes et qui, on va dire, lance toujours le suspense dans cette première ligue. Donc, c'est-à-dire que on aura une équipe qui sera toujours à la lutte, qui sera à la bagarre et qui va peut-être avoir moins d'énergie que nous, justement, donc au moins d'aborder cette rencontre.
Ils vont y laisser des plumes, c'est clair et net, surtout qu'ils ne sont pas premiers. Là, c'est Liverpool qui a récupéré la première place. Ils ont je crois que c'est un déplacement demain. Je vérifie vite fait, mais je suis. Attends. Non, Non, excuse-moi, il reçoit Aston Villa, donc quart de finaliste en Ligue Europa, si je dis pas de conneries. Et il se déplace ce week-end. Bon, c'est un peu plus facile, mais ça reste quand même un match important vu qu'ils sont en pleine lutte du titre à Crystal Palace. Donc rien n'est joué pour eux.
Quatrième de PL, il me semble, Aston Villa.
Il y a moyen, je te dis. Quatrième, effectivement. Et à 5 points de City, bon, avec un match en moins, du coup.
C'est la Ligue Europa Conférence où ils sont en quart de finale. Hein. C'est la
Ligue Europa, contre le LOSC.
Contre Lille, ouais, tout à fait.
Ouais, excusez-moi, je confonds avec West Ham, non?
Ouais, bon, j'allais dire qu'en termes de couleurs, bon, c'est
voilà, quasiment... je confonds toujours entre les deux équipes, mais bref. Mais du coup, non, voilà, c'est un match à domicile. En principe, ils devraient gagner, mais ils sont obligés de gagner. Du coup, c'est ça, c'est qu'ils sont obligés de gagner. Ils peuvent pas faire tourner, et ça va forcément, ça va laisser des traces, je pense.
Ah ouais, en tout cas,
et les absences aussi de City.
Ouais, bien sûr, mais il y a eu, on va dire,
international. Aki, il est absent, je crois. Après, je sais pas s'il était important Aki, cette saison.
Oui, quand même, on va dire qu'il a son temps de jeu. Il s'est joué donc à différents postes, sur le côté et dans l'axe. Donc, c'est pas négligeable. Hein, donc, c'est vrai que de ce côté-là, je pense qu'on aura l'occasion, lors du prochain épisode, de faire, on va dire, un bon focus sur Manchester City et de parler, on va dire, donc de ses forces et faiblesses. Et c'est vrai que ça va être très intéressant de voir un petit peu dans quel état de forme cette équipe va aborder le match contre le Real. Et surtout que le Real a légitimement des chances de pouvoir y croire. Donc je pense qu'on va essayer d'en parler à ce moment-là. Du coup, nous, c'est pour ça qu'on va écourter un petit peu cet épisode, hein, pour justement donc, laisser languir nos auditeurs sur cet avant-match qui va avoir lieu en fin de semaine. Et on va dire aborder tout ça avec plus d'informations, plus de visuels justement sur les différents résultats, peut-être aussi sur nos joueurs qui est en forme physiquement, et là ça va être important puisqu'on va suivre aussi par rapport au journal du Real les aventures de Guillaume Pomade qui fait les conférences de presse du côté du Real Madrid. Voir ce qu'il va se dire en conférence de presse au niveau des derniers entraînements, donc ça va être très très intéressant pour le match le plus important de la saison. Donc messieurs, merci déjà pour cette petite demi-heure qu'on va passer. Le plus gros va venir dans les prochaines semaines de ce côté-là. Donc non, que personne ne s'inquiète, on aura le temps de bien revenir, de prendre le temps de pouvoir faire l'avant-match, de parler même de l'après-match aussi contre City et de terminer la saison en beauté en espérant qu'on sera champion d'Espagne et qu'on continuera notre parcours en Ligue des Champions.
Totalement.
Ça fait un bon programme.
Ça fait un beau programme, effectivement.
Exactement. Mais voilà, messieurs, merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, à la Madrid.
À la Madrid.